au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Ah, tiens, j'ai posé la question à, tout de suite à Louis de Bernis.
Parce qu'on est le quatrième lundi de l'année. Non, peut-être même pas.
Ah,
j'ai
c'est
pas fait
une
le,
raison qui a peut-être... Ouais, je pense que c'est le troisième, mais ça va, ça va. Ben non,
mais,
parce que
mais
c'est...
Mais Denis Martin, oui. Je vais vous le dire, c'est quoi? Parce que c'est la norme, c'est normal pour vous de dire ça.
Tout à fait. Tu vois, elle anticipe sa chronique parce que vous entendez Daniel Rioux qui est notre chroniqueur, qui va parler de la normalité. Tiens, on va y aller tout de suite. Ça sera quoi ton sujet, donc?
Ben justement, c'est un sujet qui doit intéresser pas mal. Écoutez, le magazine Psychologie a consacré un article en 2016, en 2018 et en janvier 2025. Alors, je vous parle, la grande question que je vous pose, c'est quoi être normal?
En tout cas, moi, je ne mets jamais le mot « normal » et mon nom dans la même phrase. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose.
Ça fait votre couleur.
Ah oui, oui, c'est ça. C'est ma vérité, comme diraient certains. Alors, c'est le 19 janvier 2026 aujourd'hui. C'est le lundi des primes. Là, je vais vous arrêter tout le monde. C'est pas un fait scientifique. Lundi des primes, c'est une... Comment je pourrais dire? C'est un... une dérive commerciale, qu'on pourrait dire. Ça a été créé strictement par des groupes qui voulaient encourager les gens à faire des voyages, à aller acheter des billets d'avion. Alors, ça existe depuis 20 ans. En fait, il y a une part de vérité, on va se le dire, ça coïncide avec la période réellement difficile dans l'hémisphère nord, hein, manque de lumière, les factures des fêtes à payer, le froid. Puis c'est vrai, je vous le dis tout de suite, hein, tandis qu'on part de, on va du coq à l'âne. Mais oui, il va faire froid, il va faire... Cette semaine, on s'attend à de la neige aujourd'hui. Partout dans l'est du pays, on s'attend à du froid, même du gros froid ce week-end. Alors, attachez vos culottes, sortez vos combines. Puis il y a même des avis, des avertissements jaunes de bourrasques de neige dans le Grand Montréal, Montérégie, tout le sud du Québec, en fait. Puis c'est froid d'ici le week-end, comme j'ai dit. Il y a même des avertissements de froid au Manitoba et en Saskatchewan. Il y a juste l'Alberta et la Colombie-Britannique qui sont au-dessus des normales. Mais bon, eux autres, ils en ont souffert beaucoup les derniers temps. Donc, je vous disais, c'est le lundi des primes. Et on va aussi aller à lundi insolite, Louis de Bernis, puisque tu es là.
Oui,
on parle de quoi aujourd'hui?
Eh bien, aux Pays-Bas, d'abord, une histoire de mariage et de ChatGPT. Eh bien, ça ne fait pas bon ménage, visiblement. C'est le ChatGPT a tout simplement ruiné le mariage. Je vous expliquerai comment. Donc, attention avec l'utilisation.
Moi, j'ai un chien GPT. Non, c'est pas la même affaire. Ouais, compte.
Et puis, on parlera aussi d'une vidéo étonnante. Ça s'est passé sur Air Canada il y a quelques semaines. Un bagagiste qui a dû avoir la peur de sa vie. Il était bloqué dans la soute. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Mais il s'en souviendra longtemps de cet embarquement.
Et moi, je vais parler aujourd'hui avec Annie Dorion, qui est directrice générale de la salle Pauline Julien, qui célèbre ses 25 ans dans l'ouest de la ville de Montréal. C'est un petit peu le village gaulois, hein, dans l'ouest de la ville. On va aussi parler du film Gagne ton ciel avec Samir Keshmi, qui est l'acteur principal, et Mathieu Denis, qui est le réalisateur. Et enfin, on reçoit Alison Midgen, qui est cofondatrice et directrice exécutive de l'ensemble Obiora, l'ensemble donc professionnel de musique, avec qui célèbre la diversité. Bon, je vous ai parlé que c'était lundi des primes. Moi, je préfère cette autre journée, puisque je viens de parler de cinéma, je préfère la journée mondiale du popcorn. Tant qu'à faire. Ben oui, le 19 janvier, célébré comme la journée mondiale du popcorn. Une occasion amusante de savourer ce snack populaire, alors que ce soit au cinéma, à la maison, il y en font même dans le four micro-ondes maintenant, mais c'est pas aussi bon. Alors, cette tradition met en lumière l'histoire riche et la popularité durable du popcorn qui remonte à des découvertes archéologiques dans les ruines du Nouveau-Mexique et il y a même des références bibliques, semble-t-il, sur le maïs. En 1809, l'écrivain et poète états-unien Edgar Allan Poe, maître du conte macabre et précurseur du genre policier connu pour des œuvres telles Le Corbeau et Le Cœur Révélateur, c'était son anniversaire. Et on y va avec ça.
If I should stay, I would only be in you. Step of the way, and I will always.
chanson qui a été quand même popularisée plus récemment par Whitney Houston, mais c'était écrit en 1974 par Dolly Parton. Pourquoi je parle de Dolly Parton, chanteuse, compositrice et actrice états-unienne, icône de la musique country, qui a fait Jolene, We'll Always Love You, Working 9 to 5, ça vous dit quelque chose? La madame, aujourd'hui, elle a 80 ans. Respect pour une personne qui est une grande philanthrope et qui défend la cause des minorités de toutes sortes, notamment minorités queer, mais aussi défense des droits des femmes, et qui a beaucoup donné d'argent pour que le vaccin contre la COVID soit disponible aux gens les moins nantis. Bon anniversaire, Dolly Parton.
La mer, c'était et plus pareil.
Merci. Alors, tous les journaux ce matin, le Canada s'apprête à déployer des troupes au Groenland face aux menaces d'annexion, proférées par le président américain Donald Trump, états-unien Donald Trump. Les forces armées canadiennes n'attendent que le feu vert du premier ministre Mark Carney pour rejoindre un contingent de l'OTAN déjà sur place. Cette décision place Ottawa dans une position délicate, s'exposant aux représailles commerciales de Washington qui menacent déjà l'Europe de surtaxes douanières. Pour les experts, cette solidarité avec le Danemark est toutefois jugée essentielle. Si le Canada n'appuie pas ses alliés aujourd'hui, qui viendra à son secours si les visées impérialistes de notre voisin se tournent un jour vers notre propre territoire? D'ailleurs, Le Devoir rapporte que le président Trump serait de plus en plus obsédé parce qu'il qualifie d'incapacité militaire du Canada à protéger ses frontières. Selon des sources citées par NBC, Washington s'inquiète de la vulnérabilité du Grand Nord canadien face aux ambitions de la Russie et de la Chine. Si l'annexion du Canada n'est pas sur la table, contrairement au cas du Groenland, Trump ferait pression sur Ottawa pour conclure un accord de défense globale et augmenter massivement les dépenses militaires. Pour le président états-unien, le contrôle de son pays sur le Groenland serait d'ailleurs le meilleur moyen de protéger le Canada contre l'ingérence étrangère, une vision que rejette fermement le premier ministre Mark Carney. Dans la presse plus ce matin, le nombre de dossiers de violence conjugale a littéralement explosé au Québec. À la Sûreté du Québec, les interventions ont triplé en moins de 10 ans, atteignant un record de près de 13 000 dossiers en 2024. Selon les autorités et SOS Violence Conjugale, ce bon n'indique pas nécessairement une hausse de la violence, mais plutôt une meilleure dénonciation grâce à la prévention. L'ajout de policiers dédiés et le travail d'organismes publics et communautaires permettent aux victimes de briser le silence. Malgré ces progrès, le début de l'année 2026 est sombre, avec 3 féminicides de présumés recensés en moins de 2 semaines dans la province. L'Espagne est sous le choc après une collision ferroviaire d'une rare violence survenue hier près d'Adamuz, dans le sud du pays. 2 trains à grande vitesse transportant plus de 400 passagers sont entrés en collision après que l'un des convois a empiété sur la voie adjacente. Le bilan provisoire est lourd, au moins 38 morts et des dizaines de blessés graves. Les témoins décrivent une scène d'horreur et comparable à un tremblement de terre. Le trafic ferroviaire entre Madrid et le sud de l'Espagne demeure toutefois interrompu aujourd'hui, alors que le pays observe une journée de deuil et de douleur. Voilà, excusez-moi, le téléphone qui décide de sonner pendant que je suis en onde, il n'était pas fermé. Voilà. Je termine avec la presse plus. Geneviève Guilbeault confirme qu'elle quittera la vie politique à la fin de son mandat. Le ministre des Affaires municipales invoque des raisons familiales, affirmant avoir peur du regret de manquer de l'enfance de ses deux jeunes enfants. Cette annonce survient dans un climat tendu, alors que des sources font état d'un préavis de mauvaise conduite lié au fiasco de sa clique. Bien qu'elle dénonce un certain acharnement médiatique, celle qui était pressentie pour la succession de François Legault assure que sa décision était prise depuis longtemps et elle quitte avec le sentiment d'avoir ouvert la voie à de nombreuses femmes dans un milieu qu'elle qualifie particulièrement difficile. Les paractualités maintenant, les copes de l'info du 17 janvier. Québec s'attaque enfin, dit-on, au dossier délicat des plateaux de travail pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. À compter du 31 janvier, la controversée allocation de 5 $ par jour sera abolie pour être remplacée par un remboursement complet des frais de transport. On estime que ce remaniement permettra de récupérer près de 3 millions de dollars que le Québec s'engage à injecter pour créer de nouvelles places dans les plateaux de travail et de stage et entre autres. C'est un premier pas pour mettre fin à ce que certains intervenants comme Stéphane Marcoux de l'organisme Plein Rayon en Estrie qualifient de « cheap labor » ou d'esclavage moderne. L'objectif est clair, éviter que ces stages ne s'éternisent et s'assurer que si une personne est apte, elle obtienne un véritable emploi rémunéré au salaire juste. Dans Radio-Canada.ca du 18 janvier, à Rimouski, la solidarité se met en musique pour la 29e année consécutive. L'organisme La Ressource a organisé un grand spectacle bénéfice avec un objectif ambitieux de 300 000 $ pour soutenir les personnes en situation de handicap du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette année, le grand Paul Pichet est la tête d'affiche, entouré d'artistes comme Marie Carmen et Damien Robitaille. Les fonds sont plus cruciaux que jamais, car ils permettent de financer des besoins essentiels comme l'adaptation des domiciles, là où le réseau de santé ne suffit plus. Le spectacle sera diffusé sur les télévisions communautaires le 25 janvier prochain.
Quoi tout est dans ce silou, n'est-ce que ma tante manteau, mais loin tout est dans l'ultime détaillac, soit tout est où il nous est doux, j'espoir tout est dans il y en était assis. Écho, ma mourit dedans. We are, yo. We are, yo. Je suis de tes nanos, ta meute,
tek duchi bet. Le vent se lève, il est temps de partir vers l'intérieur des terres. We are, we are yo, we are, we are.
La chanson Nuchimit de Mike Paul Kwekwetcher.
Allô, Daniel Rioux.
Assistance, dial your operator.
On a un petit problème.
C'est pas la voix de Daniel, ça.
C'est pas la voix de Daniel, c'est la téléphoniste qui nous dit qu'on a un problème. En fait, ce matin, on a des petits problèmes parce que moi aussi, je reçois plein d'appels téléphoniques sur mon téléphone. C'est des télévendeurs. Puis parfois, quand je reconnais pas le numéro, je me dis, oh, c'est peut-être un invité qui va être en retard. Sais-tu, Louis, je pense qu'on va... Ah, c'est bon, Daniel est là. Alors, ben voilà. Alors, c'est une journée qui a commencé un peu anormalement aujourd'hui. Salut, Daniel.
Bonjour.
Mais j'ai parlé à une autre personne qui n'avait pas du tout ta belle voix, mais je me dis, bon, c'était la voix enregistrée de la compagnie de téléphone.
Alors... Ah, tiens. Oui, parce que j'ai pesé sur le mauvais bouton. Est-ce normal de faire ça? Je le sais pas.
Ah, écoute, ici, on est tout sauf normal.
Ben, tant mieux, c'est justement, on met des sourires dans le visage des gens, puis on en parle. Alors, c'est une question existentielle, hein, de se poser la question, est-ce que je suis normale ou pas, une normale norme? Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens, est-ce que c'est normal? Combien de fois qu'on se pose cette fameuse question-là? Par exemple, j'ai pété un plomb au travail, j'ai pesé sur le mauvais bouton, j'ai insulté du téléphone, j'ai insulté un partenaire, j'ai peur de ma colère envers mes enfants, etc., etc. Écoutez, brusquement, je me reconnais plus quand je me pose ce genre de questions-là parce que je sens qu'il y a une personne étrangère qui m'habite, mais... Moi qui pensais que j'étais normale. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. C'est quoi être normal? Être dans la moyenne naturelle, conforme, attendue, ce sont les interrogations. Normal comme qui? Parce qu'on se réfère souvent à d'autres, hein, aux autres, on regarde l'autre. Comme tout le monde, et la réponse standard, longtemps, la normalité a été édictée ou encore, elle est édictée, on se regardait autour de nous, par l'Église, la famille, le patron, le gouvernement. Et la frontière était étanche entre ceux qui s'y soumettent et ceux qui s'en excluent, et les marginaux, les rebelles et les fous. Donc, on peut aussi tout mettre les verbes au passé. Hein. En effet, il y a beaucoup plus de façons faciles de définir être anormal. Les manuels de psychiatrie et de psychologie en traite, ils sont remplis de définitions de l'anormalité, tout comme nous y incluons les malformations physiques, les handicaps, les dysfonctions relationnelles ou émotionnelles. Mais être normal, c'est être dans la norme du groupe, donc de ne pas prendre le risque d'être remarqué, stigmatisé, voire exclu. Être normal, c'est également se soumettre à ce qu'il faut faire pour ne pas déroger à la dite norme. Comme dit Emmanuel Laurent, c'est une fiction qui fixe. Elle a cette vertu et en même temps ce poison, cette norme, d'aliéner suffisamment les humains pour les aider à supporter la vie. Elle ritualise, offre un référentiel qui permet de se repérer aussi. Vu ainsi, la normalité ne serait donc que notre capacité d'ajustement, voire même de soumission à des règles, à des cadres, à l'ordre de la société dans laquelle nous vivons. Et il y a Carl Menninger, qui est un psychiatre américain très célèbre, qui définit la normalité en ces termes. C'est la normalité, c'est l'adaptation des êtres humains au monde et à autrui avec le maximum d'efficacité et de bonheur. C'est l'aptitude à garder une humeur égale, une intelligence alerte, un comportement apportant une certaine considération sociale et une disposition de caractère heureuse. Il y a Freud lui-même qui proposait à ses patients de se sentir mieux adapté à la société dans laquelle il vivait. Mais ce n'est pas pour rien que sa définition de la normalité était être en capacité de travailler et d'aimer. Aujourd'hui, comme alors, la norme est fixée par la majorité, parce qu'on vit en société, hein? Puis quand on interroge, entre autres, on donne l'exemple dans cet article de psychologie, quand on interroge les résistants de la première heure, on parle de la France, ceux qui, dans l'ombre, ont caché des juifs, imprimé des journaux clandestins, transporté des documents au risque de leur vie, ils n'ont pour la plupart que cette réponse « j'ai fait ce qui me semblait normal ». Voici donc une autre ouverture du mot est normal, ce qui correspond à mes valeurs et à mes croyances. Hein? Mais quelle norme me définit? C'est la question qu'on se pose dans l'article. Pour autant, pour être normal, encore faut-il savoir à quelle norme, parfois inconsciente, nous nous soumettons ou contre laquelle nous nous rebellons. Hein? Les personnes trans ou non-binaires envoient balader les normes du genre, sur le genre. Le bon père de famille des années 50 n'a strictement rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il pourrait même finir en prison pour maltraitance, malgré qu'aujourd'hui, on pourrait offrir la prison à un homme violent. Hein? On le fait aujourd'hui, ça prend un autre visage. Considérer la norme pour acquise, sans l'interroger, sans la définir, nous empêche d'en juger l'étroitesse, justement, de cette norme. Ainsi, par exemple, une femme dit « je suis une femme blanche, hétérosexuelle, en couple, sexagénaire, encore en activité », autant de normes derrière ces mots, quand on y pense, hein? Et autant de définitions qui me différencient, me singularisent d'autres êtres humains, mais qui me rattachent à un ensemble. La société revient, le groupe revient. Je suis à la fois normale et anormale. La multiplicité des choix, hein, parce qu'on voit ça dans notre société, on a le droit à plusieurs choix, les nouvelles normes viennent bousculer un ordre symbolique établi, obligeant chacun à penser cet ordre comme n'étant qu'une vérité éphémère qui a fait son temps. Ce que la psychanalyse a mis au jour, c'est que nous sommes tous des êtres singuliers, des êtres uniques, des exceptions à la règle. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. Je ne m'écarte plus de la norme, je norme mon écart, j'en fais une obligation, une identité. C'est ce qu'annonçait d'ailleurs déjà en 1975 le psychanalyste Roland Jacquard. La normalité est une valeur en baisse à l'heure où chacun revendique sa névrose, sa psychose ou ses perversions. Être normal, c'est faire preuve de bien peu d'originalité. La normalité, c'est quoi? Ça peut être un atout aussi. En effet, de plus en plus difficile de ressentir ce qu'est être normal dans une société qui prône la singularité comme atout. On parle ici on donne l'exemple d'Alexandre Jolien, qui lui est infirme moteur à la suite d'un accident de naissance. Et la réflexion sur la normalité le hante jusqu'à la passion. Je brûlais d'être comme tous les autres, j'aurais tout donné pour devenir enfin normal. Ce qu'il déteste, c'est qu'on parle de lui en accolant les mots philosophe et handicapé, qu'on résume sa pensée à un simple témoignage, alors que pour Alexandre, son infirmité n'a été que l'ouverture d'une réflexion sur le monde et sur l'autre. Il témoigne d'ailleurs de cette ambiguïté dans l'article, l'expérience du marginal, l'obligation d'être celui qui révèle la différence, d'être celui que l'on classe comme anormal, résume la problématique complexe, assumer son anormalité au point d'en faire un atout, tout en y étant constamment ramené comme une tare. C'est comme si cette aspiration à la normalité était à la fois une charge et un espoir. Il est certain que toute personne qui réussit quelque chose qui la distingue du monde commun, hein, qui suivent la norme, on pense aux moutons de Panurge, par essence est anormal. Quelqu'un qui est à l'extérieur de la, ce qui est de la norme est anormal. Ceux, curieusement, je trouve ça intéressant parce qu'on n'y pense pas, mais ceux que nous admirons ne sont-ils pas tous des hors normes? Hein? La beauté des acteurs, la voix des chanteurs, la grâce des danseurs ou l'intelligence des scientifiques ne sont pas normales au sens moyen, entre guillemets, du terme. Ils sont, comme disait le philosophe Georges Canguilhem, un autre normal. Alors, ce serait à nous de découvrir et d'expérimenter en toute conscience ce qui fait de nous des autres normaux, des normaux différents, des normaux singuliers, parce qu'on est humain, on est tout simplement humain. Et puis, dans cet article, ce que j'ai, il y avait un exemple aussi de para-athlètes. Vous savez, quand il y a les Olympiques, il y a les para-athlètes. Et puis, ils sont aux Olympiques de 2024. Il y a un athlète, Sofiane Melaoui, qui était le meneur de l'équipe de France de basket en fauteuil roulant. Lui, ce qui l'énervait, c'est qu'il n'aime pas l'idée. Il est écœuré de qu'on les compare à des super-héros. Parce que pour lui, on est tout simplement des athlètes. On n'est pas anormal, nous sommes tout simplement des athlètes. Et on dit dans l'article, au total, près de 15% de la population mondiale serait en situation de handicap, soit 1,2 milliard de personnes. Alors, c'est pas tous des surhommes, ce ne sont pas tous des demi-dieux, ce sont juste des êtres humains différemment normaux. C'est intéressant, je trouve ça bien. Parce qu'on se compare beaucoup par rapport aux autres, hein, et puis on se pose des questions, puis justement, dans un autre, en faisant une recherche, j'ai trouvé des questions que je vous pose à tous. Est-ce que le succès d'un ami vous rend malade de jalousie?
Ben non.
Mmh. Est-ce que vous pensez au compagnon de votre sœur lorsque vous êtes au lit? Bon, on ne sait pas. Mmh. Vous n'aimez pas votre image? Ah, on dit aussi, est-ce que vous vous stressez à l'idée de péter en public? Est-ce que vous dormez toujours mal à l'hôtel? Hein, je dis, voyons, c'est normal. On accompagne toujours ça de, est-ce que je suis normal? Est-ce que c'est normal que vous ayez peur de vous asseoir sur des toilettes sales? Est-ce que vous stressez?
On va devoir, le temps va nous manquer, oui. Mais je me rends compte qu'avec toutes ces dernières questions-là, on a beaucoup de sujets, beaucoup de remises en question à faire. Et moi, je commence à me dire finalement que d'être anormal, c'est peut-être la norme maintenant.
Ben oui, puis d'ailleurs, on est tous normaux parce qu'on est des humains après tout.
Tout à fait. Alors, je vous rappelle que merci beaucoup, Daniel. Daniel Rioux, donc, qu'on rejoignait à l'autre côté du pont, comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'il va faire froid cette semaine et aujourd'hui, il y a de la neige. En fait, aujourd'hui, c'est moins pire, mais ça va aller de plus en plus froid, sauf dans le reste du pays. Faire froid là-bas. Et après la pause, on va recevoir Louis de Bernis. À tout de suite.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dans le bendo depuis long time. C'est mes frères qui arrosent, c'est eux en front line. J'ai les mains dans deux, je suis trempé dans le sale. Quand j'étais dans le bad, moi j'étais tout seul. Je suis dans mon hometown, j'esquive l'enquête, on me fait appel. Sur mon dos, j'ai du off-white et du LV sur ma peur. Pour stack des billets bruns, moi je les fais day and night. Y'a zéro pouce dans le grind, nous on le fait day and night. Je suis dans mon hometown, j'esquive les enquêtes, on me fait appel. Sur mon dos, j'ai du off-white et du LV sur ma peur. Pour stack des billets bruns, moi je les fais day and night. Y'a zéro pouce dans le grind, nous on le fait day and night. Même quand j'avais zéro, je sais que pas là c'est des autres. Je sauve la coco dans la zone comme un livreur Amazon. Sur le teint des night, sur le teint des night. Le gamin prend du temps et quand tu viens faut payer live. J'ai pull up sur la scène, roulette pouf caché sous la veste. J'ai un plan sur Marrakech, appelle-moi si t'es sous une veste. Sur le teint des night, sur le teint des night. Le gamin prend du temps mais quand tu viens faut payer live. Yeah, le gamin vient faut payer live. Je pop deux trois cases à soul juste parce que la serveuse est nice. Parce que la serveuse est nice. Parce que la serveuse est nice. Sur ma pancarte écrit juste fuis le 11 et fuis les guys. J'fais des cauchemars et des sous, mais j'fais les deux pendant la nuit. Que Dieu bénisse nos mères comme celle de Ashraf Hakimi. Normal qu'on soit rancunier, on l'a fait sans aucune aide. Le chou de ma scoop, me font qu'un témoin oculaire, nigga. L'avocat m'a fait bite de case. Comme la monnaie roule, la police et les bitches nous chase. Yeah. La moon dans ma private, mais ma private c'est un safe space. Le karma c'est noué, quand tu payes en espèces. J'suis dans mon hometown, j'esquive l'enquête qu'on me fait appel. Sur mon dos j'ai du off-white et du LV sur ma paire. Pour stack des billets bruns, moi j'l'ai fait day and night. Y'a zéro pouce dans le grind, nous on fait day and night. J'suis dans mon hometown, j'esquive les enquêtes qu'on me fait appel. Sur mon dos j'ai du off-white et du LV sur ma paire. Pour stack des billets bruns, moi j'l'ai fait day and night. Y'a zéro pouce dans le grind, nous on le fait day and night. Même quand j'avais zéro, je sais que pas là c'est des autres. Je sauve la coco dans la zone comme un livreur Amazon. Sur le teint des night, sur le teint des night. Le gamma prend du temps et quand tu viens faut payer live. J'ai pull up sur la scène, roulette pouf caché sous la veste. J'ai un plan sur Marrakech, appelle-moi si t'es sous une veste. Sur le teint des night, sur le teint des night. Le gamma prend du temps mais quand tu viens faut payer live. Je m'en vais, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle qu'à la base d'un bateau c'était plein. Je me rappelle qu'à la base traînait en bas du bas. Et maintenant je suis rendu à raconter.
C'était Zayo et Lost qui chantaient Day and Night.
Oui, ben on va continuer à la normalité ou la non-normalité, ou peut-être juste dans l'inusité tant qu'à faire, ou dans ce qui est insolite. Allô Louis de Bernis.
Bonjour Denis Martin.
On va parler aux Pays-Bas, un discours rédigé avec Chat GPT qui a ruiné un mariage.
Eh oui, on ne va pas encore tout de suite être remplacé par la technologie ou par l'intelligence artificielle, ça fait presque du bien de se le dire, mais il faut se méfier de ces outils, c'est ce que cette histoire nous apprend. Ça s'est passé l'an dernier, avril 2025, dans la ville de Zwolle, c'est dans le nord du Pays-Bas. Un couple, à l'époque, eh bien, a demandé à une de ses connaissances, un de leurs amis, de célébrer leur union en tant qu'officier d'état civil. C'est autorisé aux Pays-Bas, ainsi qu'ici au Canada. Sous certaines conditions, aux Pays-Bas notamment, il faut la présence d'un vrai officier d'état civil de la commune lors de la cérémonie. Comme les mariés souhaitaient eh bien, une cérémonie décontractée, cette connaissance, cet ami, a rédigé un discours à l'aide de ChatGPT que nous connaissons tous. C'est ce qui est écrit dans le jugement du tribunal de Zwolle qui a été publié récemment. Et ce qui pose problème dans toute cette histoire, eh bien, c'est justement la manière dont ChatGPT a formulé le discours. Voici quelques extraits, par exemple. Promettez-vous d'être aux côtés de votre épouse, aujourd'hui, demain et pour toujours, de rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu'il arrive, de continuer à vous soutenir, à vous taquiner, à vous accrocher l'un à l'autre, même dans les moments difficiles, a-t-il, par exemple, été demandé à la femme. Puis le couple a été déclaré, à la fin du discours, non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe, un couple fou, l'amour de l'autre et le foyer de l'autre. Ainsi, c'est conclu cette cérémonie avec, comme vous l'avez entendu, des formulations qui sortent de l'habitude, de ce qu'on peut entendre d'habitude dans un mariage. Et c'est ces formulations qui posent problème. La cérémonie de mariage n'est pas conforme à la loi, a estimé le tribunal. Le discours susmentionné démontre que l'homme et la femme n'ont pas fait la déclaration de l'article 167, paragraphe 1 du Code civil néerlandais, a statué le tribunal. Cet article stipule que les futurs époux déclarent qu'ils rempliront toutes les obligations légales liées au mariage et elles sont énoncées lors de la lecture du discours. En conséquence, le mariage entre l'homme et la femme n'a pas été officialisé. Cela signifie que l'acte de mariage a été inscrit à tort à l'état civil, est-il écrit dans le jugement. Selon le couple, qui est bien embêté comme on s'en doute, l'erreur était indépendante de leur volonté. Eux n'avaient pas demandé à ce que ce soit rédigé de manière fantaisiste par ChatGPT. Et l'officier d'état civil présent, qui était officiel, a omis de leur signaler lors de la cérémonie. C'est ensuite, dans les semaines qui ont suivi, en se posant la question, qu'ils ont statué là-dessus. Le couple est plus qu'embêté, hein. La perte de la date du mariage a un impact émotionnel important pour eux. Ils ont demandé au tribunal de leur permettre de conserver cette date qui a une signification importante pour eux, ou de la faire au moins reconnaître administrativement comme telle. Le tribunal a tranché de manière assez intransigeante. Il comprend l'importance que revêt pour l'homme et la femme la date figurant sur l'acte, mais il ne peut ignorer la loi. Le mariage a donc bel et bien, et jusqu'à nouvel ordre, été déclaré nul, ce qui doit tous nous alerter pour les utilisations qu'on voudrait faire de ChatGPT.
Ben, j'ai été officier, moi, de mariage, mm-hmm. ici, au Québec, et on doit absolument lire exactement, il y a un petit bout là, tout le reste autour c'est pas grave, mais il y a ce petit bout là, qu'on doit absolument lire et les questions auxquelles on doit répondre pour que le mariage soit valide ou valable.
Exactement.
Hein, c'est quand même. Alors on n'est vraiment pas dans des choses, c'est inusité, mais c'est quand même la loi, c'est la loi. On va parler maintenant d'Air Canada, on parle d'un bagagiste qui a eu toute une aventure.
Ah oui, la peur de sa vie probablement. Heureusement, c'est rarissime et heureusement, il va bien, on le précise d'entrée. Mais l'incident, fait parler. C'était il y a un tout petit peu plus d'un mois, le 13 décembre dernier, le vol AC-1502 d'Air Canada a dû faire demi-tour juste avant son décollage, juste avant un potentiel drame. L'avion qui devait relier Toronto à Moncton était presque prêt à décoller. Il était en train de faire route vers la piste de décollage, en fait, lorsque les passagers ont signalé au personnel des bruits et des cris en provenance du plancher. Une vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur le réseau social X notamment, montre la scène et on entend effectivement des bruits qui viennent du plancher de l'appareil et des cris sourds. Et on entend ensuite le pilote faire une annonce aux voyageurs et il a dit très exactement « Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie, première fois, espérons que ce sera la première et la dernière, mais la raison pour laquelle nous avons dû revenir à la porte, c'est faire sortir cette personne de l'avion, nous sommes désolés », a-t-il déclaré au micro. Le commandant a confirmé que l'employé était parfaitement sain et sauf, heureusement, et qu'un délai, en revanche, supplémentaire serait nécessaire, notamment pour remplir un peu de paperasse, de papier pour documenter cet incident. L'avion est donc retourné au terminal, a fait demi-tour, littéralement, alors qu'il s'engageait vers la piste de décollage. Et la personne, l'employé, heureusement, a pu être évacué et dégagé de la soute à bagages où il était bloqué et qui avait été refermé. Il n'y a eu aucun blessé, mais Air Canada prend bien sûr très au sérieux cet incident. Ils vont faire une enquête complète pour déterminer les problèmes de sécurité potentiels et ils vont renforcer leurs procédures d'après ce qu'ils ont dit. En tout cas, c'est des choses qu'on pense voir dans les films. Et ce bagagiste, parce qu'il faut le dire, hein, s'il avait décollé avec les températures ensuite pendant le vol, il ne serait plus là.
Et c'est plus ou moins pressurisé et ce n'est pas du tout chauffé. Alors, quelle horreur. Quand on est très haut dans le ciel, ouf.
Enfin voilà, il va bien et je ne sais pas s'il continue à être employé ou si ça l'a traumatisé au point de changer de carrière.
En tout cas, il a peut-être pris congé pour le moment. Hein.
Exactement.
Sur ça, on va en musique. Merci Louis de Bernis.
Je suis la marquise coton de titre et de jupon. J'ai l'appétit du défendu. La fringale du jamais vu, je suis la marquise coton, de cœur et de réputation, c'est la faute à mon jupon. J'ai un château tout près d'ici, entre la lune et le midi, qui veut y vient y cueille, autant d'amour et paye à l'œil. Je suis la marquise coton, de cœur et de réputation, c'est la faute à mon jupon. J'aimerais mieux être sans. Sainte Marguerite, portez la tresse là sur le côté. Mais j'ai les ongles trop longs et j'ai frite le ruban bleu qui sert à l'attacher. Mais quand j'aurai trouvé mon gars, que moi j'aimerais lui pas, celui qui aura pour violon la gifle dure et le pied long, on pourra me démarquiser, on pourra me mettre au passé. Comme hier et la marée, je deviendrai madame aux fleurs. Sans pleurer, sans accroche-cœur, je serai la belle et le drap de celui qui ne m'aimera pas. J'aurai au château loin d'ici, entre la lune et le midi, n'y viendra plus qui le veut. Je m'ennuierai peut-être à ma manière du temps et de la marquise Coton. Mais on ne peut pas passer sa vie entière à jouer du cœur ou bien du jupon. Je suis la marquise de Coton. Les châteaux, les violons, le midi, mon jupon.
La marquise Coton, oui, une chanson de Pauline Julien. Je me disais que c'était la bonne façon de parler du prochain sujet, parce qu'on va parler justement de la salle Pauline Julien, du nom de cette chanteuse, autrice, compositrice et actrice qu'on pourrait certainement décrire comme une icône de la chanson québécoise. Alors, la salle Pauline Julien a 25 ans cette année. Elle est devenue un phare pour la scène culturelle francophone de l'ouest de l'île de Montréal. Et pour en discuter, on va recevoir... Donc, on reçoit sa directrice générale, Annie Dorion. Juste pour la présenter, elle est détentrice d'un baccalauréat en animation et recherche culturelle de l'UQAM. Elle a gravi tous les échelons à la salle Pauline Julien depuis son arrivée en février 2000. Après avoir été directrice générale adjointe dès 2013, elle en est aujourd'hui donc directrice générale et artistique. Résidente de la communauté qu'elle dessert, elle porte avec passion la mission de ce phare de la francophonie en milieu minoritaire. Bienvenue à l'émission, Annie Dorion.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est une belle présentation. Merci.
Écoutez, Pauline Julien, on parle quand même d'une icône. On ne pouvait pas passer à côté et de ne pas souligner cette personne et aussi le travail que vous faites. Alors, la salle Pauline Julien est là depuis 2000. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la salle pour ses 25 ans?
Ben, écoutez, je pense que on a vraiment une place, je dirais, chérie au sein de notre communauté. Nous, on a vraiment une mission francophone, là. Puis dans l'ouest de l'île, vous savez que c'est quand même c'est minoritaire, le français. Je pense que le public attendait cette salle-là et on sent qu'ils sont présents et de plus en plus nombreux. Tu sais, on accueille 35 000 personnes par année. On a un ciné-club en français aussi depuis toutes ces années. Donc, on dessert un... Comment dirais-je? C'est une importante... un important apport au niveau culturel là, dans notre petit coin de pays qu'on aime appeler le petit village gaulois.
Justement, vous en parlez, hein, c'est souvent décrit, cette salle, comme le village gaulois, en référence à Astérix, hein, le petit village gaulois qui résiste toujours et encore à l'envahisseur romain depuis plus... Dans ce cas-là, je pense que ça a commencé, ça fait 60 ans que ça existe, Astérix, peut-être, ouais, à peu près. Mais cela dit, donc, pourquoi c'est crucial de maintenir cette mission francophone encore aujourd'hui?
Ben, tu sais, je pense que le fait français, c'est vraiment important au Québec. D'ailleurs, tu sais, nous, la salle Pauline Julien a vraiment été créée suite à une consultation d'un comité de citoyens qui voulait vraiment d'avoir, oui, un cégep francophone, mais aussi une salle de spectacle, donc d'amener l'éducation et la culture dans la communauté, dans l'ouest de l'île. Et ça s'est fait comme naturellement, tu sais, le cégep, on est à même le cégep Gérald Godin, qui est un cégep francophone, et tout naturellement est venu le fait de nommer la salle Pauline Julien en l'honneur de Pauline Julien, qui est décédée le 1er octobre 1998. Oui. Et donc, Pauline et Gérald sont unis maintenant.
Oui, parce qu'ils étaient unis dans la ville, ils sont maintenant au cégep.
Exactement, oui. Exactement. Oui, je trouve ça très beau.
C'est une belle métaphore.
Oui, c'est une belle métaphore. On a été créé vraiment par un décret du gouvernement du Québec, là, ce qui est assez unique là, comme pour un diffuseur pluridisciplinaire là, comme le nôtre. Là.
Vous dites que la salle, elle est ce qu'elle est grâce aux gens qui la traversent, on peut dire. Comment on peut décrire cette relation entre l'équipe, votre équipe et le public?
Ben, écoutez, c'est une relation qui est précieuse, je dirais. Tu sais, nous, ici, j'aime bien appeler la grande famille Pauline Julien parce que oui, il y a notre équipe permanente. On est 10 personnes dans l'équipe permanente. On a une équipe technique hyper engagée aussi. Puis on a une équipe de bénévoles, 65 bénévoles issus de la communauté et d'étudiants du cégep. Et ça fait 25 ans vraiment qu'on a, ben, c'est notre 26e année qu'on entame, qu'on a des bénévoles qui font accueil, placier, ouvreur, préposé au bord. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis on a aussi un comité des complices qui est en fait composé d'abonnés à la salle Pauline Julien, puis un comité aviseur, disons, si on veut, je sais pas moi, changer notre formule d'abonnement, ou et ils nous aident aussi à aller chercher du financement. Tu sais, on fait une soirée bénéfice, là. D'ailleurs, notre soirée bénéfice sera le 26 mars prochain. Et le comité des complices s'associe à nous et avec le conseil d'administration pour, et puis on a un comité d'honneur aussi là, pour cet événement-là, mais donc pour aller chercher des sous pour appuyer notre mission, en fait, et notre fond au cœur de la scène.
Oui. J'aimerais qu'on parle de la programmation hiver-printemps 2026, hein, c'est le temps de le faire. Il y a des moments forts qui se proposent. D'ailleurs, on va avoir la grande première de Dominique Fils-Aimé le 23 janvier. À quoi on peut s'attendre?
Ben, écoutez, elle va venir chez nous, effectivement, en résidence, juste avant la première. Elle va passer la semaine chez nous. Ben, ça va être un spectacle. Dominique Fils-Aimé, elle est adorée du public, là, vraiment, là. À quoi on peut s'attendre, je pense, à une grande qualité d'artiste. Les gens l'adorent. Mais là, moi, j'ai rien vu encore, puisqu'elle va venir finaliser la création de son spectacle très, très prochainement. On a vraiment très, très hâte de l'accueillir.
Ça sera une surprise autant pour les organisateurs, organisatrices que les spectateurs, spectatrices.
Oui. Il y a aussi c'est un nouveau spectacle. Alors.
Oui, c'est un nouveau spectacle. Oui. La série Danse, ça semble très audacieux cette année, avec des artistes comme José Navas. C'est une volonté de rendre cet art plus accessible, peut-être?
Oui, effectivement. Nous, on a une programmation danse depuis nos tout débuts. C'est vraiment important pour nous de rendre la danse justement accessible au grand public. On fait tout un travail aussi de développement en danse et avec les écoles de danse aussi. Depuis plusieurs années, on fait des levées de rideaux à la manière des chorégraphes qu'on invite. Donc là, justement, on vient juste de présenter Alexis là, vendredi dernier. Et on invite, par exemple, l'école Ballet Ouest on invite les chorégraphes à aller faire des ateliers dans les écoles, puis ensuite, ils viennent faire des levées de rideaux avant le spectacle. Donc, ça fait connaître les artistes professionnels à des artistes amateurs. Et aussi, ça fait que les artistes amateurs apprennent à connaître des démarches artistiques aussi différentes. Là, effectivement, on a l'écho des racines qui s'en vient le 6 février prochain, qui est une chorégraphie là, de Sarah Bronsart et qui allie la danse flamenco et la gigue québécoise. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est soutenu par le Conseil des arts de Montréal en tournée. Oui. Puis Aves, effectivement, c'est un très, très grand chorégraphe, José Navas. On a vraiment hâte d'accueillir. Là. C'est un très beau spectacle, magnifique, vraiment.
Et vous présentez Nikamu Mamuyitun en avril.
Oui,
alors, c'est important pour vous, ça.
Effectivement, ce projet-là est un projet qui allie des artistes autochtones et allochtones. Et on a accueilli la première édition, d'ailleurs, là, c'est la deuxième édition hein, de Nikamu Mamuyitun. Et c'est vraiment un projet unique, je vous dirais, qui est complètement... comment je pourrais nommer ça? C'est beau. Puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir donner la chance justement à des artistes qui créent des spectacles vraiment à partir de zéro, en fait. Là, mm-hmm. C'est des artistes qui ont travaillé ensemble à des chansons et j'aime l'idée de faire un pont entre les allochtones et les autochtones aussi. C'est vraiment, je trouve ça très riche, en fait.
Oui, on a besoin de beau puis de lumière ces jours-ci,
oui,
ça fait
exactement.
Du bien. Allons-y avec l'espace découverte, là, une petite dernière que j'aimerais vous, dont j'aimerais vous parler. On parle de, on va retrouver Fuseau et le groupe Princesse. C'est important pour vous de prendre le pouls de la relève?
Oui, c'est vraiment important. Ça fait partie de notre ADN depuis toujours aussi, là, de vraiment laisser la place aux artistes de la relève, aux artistes aussi ou avec des projets découverts, des projets hors normes. Dans le cas de Fuseau, ben c'est un jeune artiste qui est vraiment accompli. Là, sa chanson Love a été diffusée vraiment dans 13 pays, mais tu sais, il gagne vraiment à être connu. Il était là d'ailleurs à notre lancement, puis le public est tombé en amour avec lui. Mm-hmm. Et dans le cas de Princesse, en fait, c'est un projet qui a été au Francouverte, qui a été finaliste et qui va faire une tournée dans notre réseau. Nous, notre salle de spectacle, on fait partie de Réseau Scène, qui est un réseau de diffuseurs en périphérie de Montréal, si on veut. Et Princesse va faire la tournée, dans le fond, des Francouverte. Et on a très hâte de les accueillir le 16 avril prochain. Oui.
Donc,
et on a la carte accro, justement. On a développé ça, qui est une carte, dans le fond, qui donne accès à peu près l'ensemble de notre programmation là, pour les 30 ans et moins à un coût accessible. Donc ça, c'est sûr que la série Découverte est vraiment convoitée pour les jeunes et par les jeunes, oui.
Alors, on sait que la salle Pauline Genier, c'est un organisme à but non lucratif qui compte sur les dons de la communauté. On a parlé de cette soirée bénéfice. Ça demeure quand même un défi hein, de gérer financièrement d'abord ce genre d'organisation.
Ben oui, effectivement, c'est un enjeu. Nous, on est quand même situé dans le plus petit arrondissement de la ville de Montréal, donc qui a moins de sous que des plus grands arrondissements, si on veut. Donc, de pouvoir avoir un soutien qui puisse être pérenne, c'est vraiment... oui, c'est un enjeu. On a d'ailleurs déposé un mémoire là en novembre l'année dernière pour dire bon ben tu sais pour expliquer justement nos enjeux par rapport à ça, par rapport à la structure, par rapport au fait qu'on est une petite salle aussi, tu sais, c'est un petit joyau là, 390 places, mais ça a ses enjeux justement au niveau de l'apport financier, tu sais. Et de pouvoir justement maintenir une programmation qui est équilibrée entre des artistes connus puis des artistes de la relève, tout ça. Donc oui, c'est effectivement c'est un enjeu. Puis notre fonds au cœur de la scène, en fait, c'est un fonds d'accessibilité aux arts qui permet de rendre accessible justement, que ce soit pour tout notre programme scolaire. On accueille plus de 10 000 enfants par année là, pour le volet scolaire qui viennent voir des spectacles. Et pour tous les gens aussi qui sont en francisation, on fait beaucoup de projets avec eux, des dîners-causeries, des liens avec des spectacles, avec des films aussi qu'on présente des fois spécifiquement pour eux parce qu'on a un ciné-club aussi hein, ouais. Qu'on présente, un ciné-club en français depuis nos tout débuts aussi. Qui est très prisé là, par la communauté.
En tout cas, c'est clairement, vous avez du pain sur la planche. Ben, on va vous souhaiter un bon anniversaire, puis on vous en souhaite encore 25 autres, puis même plus encore.
Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Annie Dorion, qui est directrice générale et artistique de la salle Pauline Julien. Je vous rappelle que la programmation hiver-printemps est lancée avec des artistes. Hein, on n'a pas tout nommé, mais il y a Steve Hill, Ariane Moffat, Louis-Adrienne Cassidy. Alors, tous les détails sur les spectacles à venir, donc sur la salle paulinejulien.com. Et puis en Beauce, c'est dans toute la région de Chaudière-Appalaches, le ski alpin devient plus accessible. L'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées relance cette année ses journées de découverte de ski adapté grâce à des équipements spécialisés comme le ski tandem et à la formation de nouveaux pilotes certifiés. Six stations de la région, dont le Massif du Sud et le Mont Adstock, permettent désormais aux personnes à mobilité réduite de dévaler les pentes, une initiative gratuite qui prouve que malgré les coûts de ces équipements qui frôlent les 20 000 $ le plaisir du plein air ne devrait avoir aucune barrière. Le documentaire « Emmène-moi » réalisé par la trifluvienne Claudie Simard nous plonge dans une aventure humaine bouleversante. Ça sort des Coop de l'information aussi, 17 janvier. On y suit Samuel Saussier, un homme atteint du syndrome de Louis Barre qui a relevé le défi monumental de la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion. Fait intéressant, la réalisatrice avait d'abord hésité avant d'accepter le projet. N'étant pas elle-même une adepte de la course, elle craignait de ne pas se sentir interpellée. Et c'est finalement l'aspect profondément humain basé sur l'entraide et l'urgence de vivre de Samuel qui l'a convaincue. Ce film est disponible dès maintenant sur ici-tout.tv. Et j'ai le temps de vous parler d'un article sorti de l'Express de Drummondville, 17 janvier. L'Association de la paralysie cérébrale des régions Mauricie et Centre du Québec lance officiellement sa campagne annuelle de financement. Pour cette édition 2026, l'organisme peut compter sur la présidence d'honneur d'Anthony Larrivé, associé chez Mallette pour mobiliser le milieu des affaires. L'objectif est de taille, amasser les fonds nécessaires pour maintenir les services de soutien et de répit auprès de plus de 250 membres et de leurs familles. Comme chaque année, une équipe de bénévoles sollicitera également la générosité de la population par téléphone, mais on peut contribuer en faisant un petit tour sur le site web de l'association pour faire un don. Et puis après la pause, on va parler du film Gagne ton ciel. On reçoit Samir Gueshmi et Mathieu Denis, le réalisateur. Et on va aussi parler de l'ensemble Obiora et de son prochain concert. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée particulièrement... pas très froide, mais ça va se refroidir pour le restant de la semaine. Alors préparez-vous. À tout de suite.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Nasser, c'est encore Rachid. Écoute, je t'appelle au sujet de l'argent que t'as placé pour moi. Je vois que ça a sérieusement baissé.
C'est ça qui est bien avec l'argent. Quand on en a, c'est lui qui travaille pour nous. Mais quand on n'en a pas, c'est nous qui travaillons pour lui.
L'argent qui dort, c'est de l'argent qui est mort. Et si vous me laissez l'investir, moi je peux vous rapporter un bon petit profit. Moi, j'ai longtemps cru que si je travaillais assez fort, les choses finiraient par se passer pour moi. Regardez autour de vous. Vous croyez que on part tous du même endroit?
The market is the great equalizer. It's the ultimate level playing field.
Monsieur Belkacem, c'est pas la première fois que vous avez des retards de paiement.
J'ai pas eu d'augmentation depuis 2019.
T'es au dernier échelon salarial de ton poste.
Il manque 15 000 $ dans le compte.
Oui, alors écoutez, on devait faire une entrevue présentement avec Samir Gueshmi et Mathieu Denis pour parler du film Gagne ton ciel. Pour le moment, les gens ne sont pas là. On va aller en musique.
Ce matin, je me suis levé du pied droit avant le gauche. À ce qui paraît, ça porte chance, and I could use a dose. J'ai soufflé toutes mes bougies, puis j'ai vraiment fait un vœu. Demande-moi pas ce qui m'a pris, aujourd'hui je me prête au jeu. J'ai fait tirer mon tarot, j'ai même lu mon horoscope. Je sais c'est pas mon genre, mais je voulais juste savoir what's up. Je me disais qu'un peu d'espoir, ça peut pas faire de mal. Moi, j'ai jamais eu la conviction que l'univers me parle. À part la familia, j'ai vécu sans foi ni loi. Y'aura pas de paradis pour les bandits comme toi pis moi. Pis si ma mort est certaine, ma vie est indécise. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend behind the scenes,
si
mais j'ai besoin d'un signe.
Everything's
J'avais besoin d'un signe pour savoir que j'étais sur le bon chemin. Any little thing aurait suffi pour me convaincre. Peut-être un vieux proverbe trouvé dans un biscuit chinois. M'en fous si c'est pas vrai tant que ça m'amène jusque chez moi. À ce qui paraît, l'essentiel du message est dans le sous-texte. Mais plus souvent qu'autrement, je l'ai trouvé dans la bouteille. Tu sais qu'il y a mes rêves, mais y'avait pas de révélation. Si c'est dans mes gènes, ça l'a sauté des générations. Ma grand-mère disait que tout ce qui vient d'ici vient des cieux. Mais pour moi, le ciel, c'est pas la limite, c'est une teinte de bleu. J'ai pas besoin du Holy Spirit pour être saint d'esprit. Ça relève pas du miracle, mais de ce qu'il y a dans le miroir.
Si
quand j'ai besoin d'un signe,
je finis. Spécial si tu regardes mon bord du quai. Si je suis on my way, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay.
C'était Loud et sa chanson Sing, et je pense qu'il est accompagné par Stats.
Le gouvernement fédéral confirme le renouvellement de son soutien financier au 988, la ligne d'aide pancanadienne en cas de crise de suicide. Depuis son lancement, le service essentiel a déjà traité des centaines de milliers d'appels et de messages textes offrant un soutien bilingue et gratuit 24 heures sur 24. Cet investissement permettra de consolider le réseau de partenaires locaux qui répondent aux appels et de maintenir une intervention rapide pour les personnes en détresse. Ottawa rappelle que l'accessibilité à cette ressource simple et mémorable est une priorité pour sauver des vies et briser l'isolement partout au pays. Bon, alors, je pense qu'on a réglé nos problèmes de communication. On va rejoindre Mathieu Denis, qui est le co-scénariste et réalisateur du film Gang ton ciel, qui prend l'affiche le 23 janvier dernier. On a joué un petit extrait tantôt de la bande annonce. Bienvenue à l'émission, Mathieu.
Merci. Bonjour. Désolé pour les petits ennuis.
Oui, c'est chose qui arrive. C'est toujours plus compliqué quand on est en direct. Mathieu, les films précédents que vous avez faits touchaient souvent aux politiques et aux collectifs. Pourquoi avoir choisi cette fois de vous concentrer sur la chute très intime et financière de votre protagoniste, Nasser?
Ben, parce que ça nous concerne tous. Moi, je me suis senti interpellé par le drame de cet homme ordinaire qui avait comme été poussé à poser un geste extraordinaire pour essayer de se sortir de ses ennuis financiers. Je pense que c'est pas si loin des thèmes que j'aborde aussi d'habitude. Je pense que quand on parle d'argent, il y a quelque chose de politique là-dedans aussi. Et puis, c'est, oui, évidemment, c'est un film aussi qui parle de l'identité québécoise, qui s'interroge sur des questions qui étaient comme toujours au cœur de mon travail.
Moi, j'ai regardé le ciel, le garde ton ciel, parce qu'on a toujours, nous, accès à des visionnements un peu prioritaires par rapport aux autres. Et j'avoue que ce film a comme une espèce de forme de rédemption. Je voyais une quête spirituelle. Est-ce que je me trompe? Je pense à Nasser qui cherche à sauver son âme ou simplement cherche juste à sauver les apparences.
Non, vous ne vous trompez pas du tout. Je pense que vous voyez juste... Tu sais, c'est un film qui essaye de encore une fois, de parler de notre monde, puis il y a un peu cette idée qu'on est tous essoufflés. Puis je pense que Nasser est comme, tu sais, il pédale pour se maintenir la tête hors de l'eau. Et je pense qu'au fil du film, il réalise certaines choses. Puis c'est effectivement, il y a comme une espèce de rédemption. C'est sûr que c'est pas, tu sais, pour paraphraser Bernard Raymond, c'est un film qui est sombre, mais pas désespéré. Alors, il y a un peu toujours cet espoir, en tout cas dans mes films en général, mais dans ce film-là en particulier, cette idée que, tu sais, collectivement, je pense qu'on voit le monde, notre monde, l'état dans lequel il est. Collectivement, je pense que moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'est jamais trop tard, tant qu'il n'est pas trop tard, en fait. Et donc, le film va un peu dans ce sens-là.
Vous avez choisi Samuel Guichy pour jouer le rôle donc de Nasser. Il doit jouer quand même un rôle complexe. C'est complexe, hein? Un père de famille aimant, un citoyen respecté, puis tout à coup le vernis craque. Là, parce qu'il n'est pas là pour répondre à la question, mais j'imagine que vous êtes capable un peu d'en parler. Comment il a fait ça? Comment on a fait ça, cette espèce d'approche? Parce que c'est beaucoup dans l'intériorité du personnage. Là, quand on le voit, il a toujours l'air normal, hein? Sauf à la fin, ça c'est une paire de manches, là, mais c'est... Ouais.
Ben non, effectivement, il y a une grande part d'ombre dans ce personnage-là. Mais en fait, je me permets de répondre pour Samir, il irait sûrement plus en détail, mais moi, quand je cherche des acteurs pour interpréter des rôles, j'essaie de trouver des gens qui portent quelque chose du personnage en eux-mêmes. Puis en ce sens-là, Samir, c'est un père de famille. Donc, il y a quelque chose de ce personnage-là qui comprend. Il connaît l'immigration. Il vient d'une famille d'immigrants algériens en France. Donc, il y a beaucoup des défis puis des enjeux avec lesquels Nasser se débat dans le film que Samir connaissait intimement. Puis même, je dirais, dans le tournage, le fait que Samir est français, il vient au Québec, donc tourner dans un contexte qu'il ne connaît pas nécessairement très bien, même s'il avait déjà fait un film ici, mais dans le fait de faire le film, dans l'expérience, c'est comme si lui, il vit un peu ce que Nasser a vécu dans la vie. Et lui-même, dans cette espèce d'état d'inconfort, d'essayer de comprendre les codes d'un monde avec lesquels il n'est pas familier. Alors, je pense que tout ça, ça faisait en sorte que, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était facile, mais reste qu'il y avait quelque chose que Samir comprenait intimement du personnage. Puis je pense que c'est comme ça qu'il a pu plonger dans le film.
On dit souvent que le cinéma québécois, ça a une saveur particulière. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de différent là, pour des acteurs? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit des acteurs français venir jouer ici. Qu'est-ce qu'on fait de différent et qui fait que ça les attire dans nos films?
Ça, c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Je pense que, bêtement, en tout cas, dans le cas de Samir, je sais que c'était ça, ça repose simplement sur est-ce qu'il y a un scénario intéressant puis un personnage que l'acteur a envie d'explorer et de défendre. Je pense que c'est vraiment ça. Dans mon cas, je pense que Samir... Ben, il avait beaucoup aimé le scénario, puis comme je disais tout à l'heure, il s'est reconnu un peu dans ce personnage-là, dans certains des combats, des défis, dans certains de ses travers même. Alors, je pense qu'il avait envie d'explorer ce genre de personnage-là, puis il était au bon moment dans sa vie, dans sa carrière, pour tenter cette expérience-là. Alors, tu sais, ça reste... faire un film avec quelqu'un, c'est comme une expérience, quelque chose d'assez intime. Il faut vraiment que l'acteur... connecte intimement avec le personnage, puis c'est dans ces circonstances-là que les choses peuvent se passer.
Je dois parler de la manière que ça a été tourné, parce que je pense que une personne qui collabore avec vous, Sarah Michara, à la photo, en fait, je pense que c'est la personne qui s'occupe du cadrage, si vous voulez, je trouvais qu'il y avait une atmosphère, hein, que c'était de plus en plus lourd sur les épaules de Nasser. C'était ça, cette atmosphère que vous vouliez créer?
Oui, ben donc Sarah Michara, c'est effectivement la directrice photo, c'est une directrice photo exceptionnelle. Nous, on a eu beaucoup d'échanges en amont, donc avant de tourner le film. Puis oui, tu sais, je pense que vous mettez le doigt sur l'ambiance. Ce qu'on avait envie de mettre en image, finalement, c'est la part d'ombre de Nasser. C'est-à-dire que Nasser, il projette une image à ses proches qui a de l'air tout à fait correct, tout est en équilibre, tout va bien, il est toujours bien mis et tout ça. Mais en fait, derrière cette façade-là, il sombre complètement. Il y a un côté très sombre, puis on avait envie que la lumière traduise ça visuellement, qu'on ressente l'espèce d'inconfort, le malaise qu'il y a derrière cette image qu'il projette. Donc voilà, je pense que vous mettez vraiment le doigt là, sur la bonne chose. On a travaillé fort pour créer cette ambiance-là, autant à la lumière qu'au cadrage.
Oui, en effet, ça aide beaucoup hein, à garder l'attention. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas dérivé de l'écran. C'était pas un gros écran, c'était mon ordinateur, mais quand même. Je vais pas dévoiler là, la finale, mais oui. Le plan de Nasser, là, la fin, là, on s'entend que c'est vraiment désespéré. Puis après, je me posais la question, est-ce qu'on peut encore éprouver de l'empathie pour cet homme qui prend des décisions extrêmes? Puis là, on va juste pas divulgâcher. Là. Je vais laisser entendre qu'il se passe de quoi d'absolument énorme à la fin, là, mais quand même.
Oui.
Puis
oui.
Je veux pas, c'est même pas drôle, j'arrive, c'est pas drôle. Là.
Ouais. Ben oui, moi, Nasser, j'arrête jamais de l'aimer, en fait. Je le trouve toujours.
Il est
adorable, effectivement, mais il est comme. Il est aussi humain, en fait, autant dans ses bons côtés que dans ses travers. Et moi, c'est ce que je ressens pour lui. Je me reconnais dans ce personnage-là beaucoup. Bon, je ne suis pas allé aussi loin que lui, évidemment. On est dans la fiction, on est dans le cinéma, on est dans la dramatisation. Mais reste que dans ce qu'il fait... Puis aussi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on peut continuer de l'aimer, c'est qu'on on comprend que ce qu'il fait, même dans les choses les plus extrêmes qu'il fait, il le fait un peu pour lui-même, mais il le fait beaucoup pour sa famille, pour ses enfants, pour... Voilà, c'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui s'est perdu, mais c'est pas une mauvaise personne. Et d'ailleurs, en tout cas, je pense qu'à la fin du film, on réalise aussi à quel point il... ça aurait pu être pire, là, disons.
On me dit que Samuel Grishmi est avec vous. Est-ce que c'est possible? Je viens d'avoir un petit texto de Julie. Non, je pense.
Là, si vous voulez, parce que là, il faisait une autre entrevue, mais on peut lui demander de se joindre à nous si vous voulez.
S'il peut joindre à nous, parce qu'on a le temps finalement, parce que mon autre invité est également en retard. Alors, on va continuer. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée des retards. On appelle ça la journée de la déprime, mais c'est aussi la journée des retards.
Oui, c'est ça, c'est le Blue Monday.
Oui. En fait, qui est une création complètement commerciale, je l'ai dit en début d'émission, mais bon, ça nous permet d'en jaser. Mathieu, je vais quand même rappeler en attendant que Samir se joigne à nous, que ce film, Le Gagne ton ciel, sort en salle partout au Québec le 23 janvier prochain. C'est vraiment un film, j'avoue, là, que moi, personnellement, je peux le dire, j'ai le droit de dire ça comme journaliste, j'ai bien aimé ce film-là parce qu'il est allé chercher des choses avec lesquelles j'étais mal à l'aise. Puis finalement, on vit avec. Je pense que j'entends, Samir est là. Bonjour Samir Grishmi, ça va bien?
Bonjour.
Je suis très content de vous recevoir à l'émission. Samir, justement, on a parlé avec Mathieu beaucoup là, de la réalisation de ce film, du scénario et tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est votre deuxième rôle au cinéma québécois. Oui. Qu'est-ce qui vous a tant attiré dans ce scénario de Mathieu et d'Alexandre Auger?
C'est la dimension un peu tragique. J'avais l'impression de jouer un personnage de tragédie, en fait, qui était condamné d'avance, en fait, et qui avait comme une trajectoire inéluctable vers le pire, quoi. Et ça, c'est pour un acteur, c'est assez jouissif, quand même.
J'avoue que moi, j'ai été pris. Je m'attendais pas à ce qui s'est passé à la fin. Puis comme je l'ai dit, j'ai promis qu'on ne divulgâcherait pas la finale du film quand même.
Donc mon résumé, il divulgâche un peu alors.
Pas du tout. On n'a pas dit ce qui se passait. Samir, ce que j'ai trouvé intéressant, vous jouez cette personne, on l'aime, Nasser. On l'aime, puis on veut que ça marche pour lui. Puis tout à coup, il se retrouve dans une situation où le vernis craque. Comment on réussit à jouer ça, cette façade sociale et la détresse intérieure?
Merci déjà pour vos mots. Comment on réussit? Je ne sais pas si... Comment on réussit? On a des partenaires, on a un metteur en scène, on a des situations, on a des dialogues, on se sert de tout ce qu'on... C'est qu'on est comme un funambule qui s'accroche à chaque branche. On est dans un... Il y a eu plein de tous les paramètres ont aidé finalement, les paramètres concrets de mon arrivée ici. Je suis arrivé 2 semaines avant le tournage, Mathieu, on se connaissait très peu, donc il y a eu un sentiment un peu de vertige et de funambule qui m'ont permis finalement de travailler, où ça a été c'est un personnage en insécurité constante, et il a fallu trouver ces appuis-là sans les fabriquer, et en même temps j'ai envie de vous dire que c'est très mystérieux le travail, et puis le travail d'un acteur, et puis le résultat, on ne sait jamais comment on a les ingrédients après, mais on ne sait jamais si la mayonnaise va prendre. On a des partenaires de jeu, donc c'est vraiment un art collectif, hein, le métier, même le métier d'acteur. C'est, on ne fait rien tout seul, c'est vraiment avec les autres. En tous les cas, c'est la vérité des rapports qui comptait, et ça, c'est ce que je vise à chaque fois, en fait.
Je terminerai avec cette question, Samir. Je l'ai posée à Mathieu, mais je pense qu'elle vous revient. On dit souvent que le cinéma québécois a une saveur particulière. Comment avez-vous trouvé cette énergie de plateau par rapport à vos expériences européennes?
Je disais ça tout à l'heure. En fait, j'allais dire qu'il n'y avait pas de différence, mais moi, je me sens bien ici. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai besoin de le définir d'abord ou d'essayer de comprendre pourquoi? C'est comme des histoires d'amour avec le Québec, vraiment, entre le premier film de Mathieu, de Denis Côté, avec Mathieu Denis maintenant, et puis j'espère en avoir d'autres. C'est des affinités, je ne sais pas, C'est un sentiment profond. Franchement, peut-être le jour où j'arriverai à l'expliquer, bah, je partirai ailleurs. Mais en tous les cas, pour, en tous les cas, pour l'instant, je m'y sens bien. Ma créativité, elle est sollicitée, elle est requestionnée. C'est inspirant ici. Moi, ça m'inspire d'être là, en fait.
Ben, merci beaucoup, Mathieu Denis et Samir Gueschmi, d'avoir été avec nous. Puis bon succès pour ce film.
Guess me, vous avez dit gush.
J'ai dit guess me, je suis désolé, guess me.
Guess me. Devine-moi en anglais.
Devine-moi en anglais, pas trop. Merci beaucoup de m'avoir corrigé. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Je les entends toujours, tu vois, des éclats de rire figés par le froid. Ils me blessent maintenant, que tu ne te souviens plus comment.
Entendre un extrait de Nimrod, la neuvième et la plus célèbre des variations Enigma d'Edward Elgar. Cette pièce est jouée par l'ensemble Obiora sous la direction de Daniel Bartholomew Poizers. Et nous parlons donc de musique classique aujourd'hui, mais sous l'angle de la diversité et de l'excellence. Je reçois Alison Mijon, qui est cofondatrice et directrice exécutive de l'ensemble Obiora. C'est le premier orchestre professionnel au pays dont la mission est de mettre en lumière les musiciens issus de la diversité culturelle. Bienvenue au quotidien.
Bonjour, merci.
Oui, je vous invite à vous rapprocher un petit peu du micro, oui, voilà. D'abord, Alison, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ensemble Obiora, pouvez-vous nous rappeler un peu ce qui a motivé la création et pourquoi c'est encore aujourd'hui une exception dans le paysage musical canadien?
Oui, donc l'ensemble Obiora, c'est un ensemble donc, de musique classique et, qu'on a cofondé, mon partenaire et moi, il y a 4 ans et demi maintenant. C'était un peu pendant la fin de la pandémie. On travaillait tous les deux en musique classique, donc moi plutôt du point de vue administratif et lui en tant que musicien. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de se dire mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de représentation de personnes comme nous dans le milieu dans lequel nous travaillons.
Parce qu'on parle de la diversité culturelle, donc ça inclut des personnes de couleur, là, c'est ça?
C'est ça, exactement, oui. De différentes origines. Et on s'est posé la question de savoir mais comment ça se fait, est-ce que ces musiciens-là existent, enfin voilà, c'était vraiment des questions qu'on s'est posées, puis on s'est rendu compte que d'autres musiciens canadiens aussi de différentes origines se posent également la même question, que ce soit au Québec mais aussi en Ontario. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, en fait, de fonder notre ensemble.
Et comment cette pluralité culturelle que vous avez découverte, qu'elle existe, puis elle est là, comment change-t-elle l'expérience du public quand elle va au concert?
Je pense qu'elle change l'expérience parce que c'est vrai qu'on a, on a un public qui est quand même très diversifié, pas seulement en termes culturels, mais aussi au niveau de l'âge. On a la chance d'avoir un public qui est relativement plus jeune que pour les autres orchestres ou ensemble. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a cette volonté de voir un orchestre qui est plus représentatif de la société dans laquelle ils vivent, en fait, tout mm-hmm. simplement. C'est vrai qu'on voit à Montréal, c'est quand même une société très multiculturelle.
Tout à fait.
Donc je pense qu'il y a ce côté-là de se sentir peut-être plus proche aussi de l'orchestre qui est sur scène.
Obiora.
Oui.
J'aimerais savoir quelle est l'origine de ce mot.
Alors c'est un prénom en oui. langue Igbo mm-hmm. Du Nigeria qui signifie le cœur, les désirs du peuple. Mm. Et en fait, on a choisi ce nom-là parce que Brandon, comme moi, pendant la pandémie, on s'est amusé à faire des tests ADN parce qu'on est tous les deux d'origine caribéenne, mais on avait envie de savoir un peu plus quelles étaient nos origines africaines. Et c'est avéré que ça venait majoritairement du Nigeria, donc on a choisi d'avoir un peu cette référence.
Ah, quelle belle anecdote, c'est vraiment beau comme histoire. Le 31 janvier prochain, vous allez lancer votre saison avec le concert Amber. Pourquoi ce titre et c'est quoi l'ambiance générale de ce programme?
Alors, on a choisi Amber parce que la pièce principale de notre concert s'appelle Then the Sky Was Amber. Mm-hmm. C'est une pièce qu'on a commandée du compositeur canadien d'origine iranienne Saman Shahi. Donc, il a composé cette pièce spécialement pour Obiora et pour l'altiste Sharon Way. Et donc, on a décidé de choisir le titre de concert en conséquence.
Alors, il nous reste beaucoup de temps, mais oui. Je veux qu'on parle de cette soirée parce qu'il y a une création mondiale. Le clou de la soirée s'appelle « Then the Sky Was Amber », le titre
oui.
du compositeur, donc, Saman Shahi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette œuvre? Et sur la soliste, c'est Sharon Way, je prononce bien son nom, oui. qui va l'interpréter.
Alors, c'est une pièce, en fait, qui a pour thématique les phénomènes météorologiques. De comment est-ce que naît une tempête, de tout ce qui se passe pendant une tempête du début à la fin. Et en fait, le compositeur a essayé de recréer ça à travers les différents mouvements de sa pièce. Mmh. Il a envie de mettre ça en valeur parce que c'est aussi un thème qui est récurrent aujourd'hui, l'écologie. Donc, on trouvait que c'était important de...
Oh, plus que jamais, même si certains pensent que ça n'existe pas. Mais en tout cas, Sharon Way, parlez-nous de la soliste.
Oui, c'est une soliste canadienne qui est vraiment qui est reconnue, renommée, qui a fait partie de plusieurs quatuors. On a vraiment la chance, c'est la première fois qu'on va travailler avec elle. On a la chance, elle suit notre travail depuis plusieurs années déjà. Puis quand on a parlé du projet, elle a l'habitude de travailler avec Saman. Donc pour nous, c'était vraiment le bon moment pour travailler avec elle. Puis on est vraiment très heureux.
Si je ne me trompe pas, donc vous allez passer de Haydn à Stravinsky en passant par Caroline Shaw.
Oui.
Comment on bâtit un pont? Ce n'est pas une critique, je suis juste curieux. Comment on bâtit un pont entre ce grand répertoire classique et ce qui est plus moderne?
Mais en fait, c'est aussi une idée de Daniel, notre chef invité. Il avait envie d'avoir ce contraste entre les différentes pièces, de montrer ce qu'il était possible de faire. Il a essayé vraiment de réfléchir à un programme... à la fois qui met en valeur le répertoire traditionnel qu'on a l'habitude un peu plus d'entendre, mais avec les nouvelles créations pour montrer que tout appartient à la même tout peut appartenir à la même atmosphère finalement. En fait, il n'y a pas de clivage entre les différentes époques ou entre les différentes périodes. C'est vraiment une continuité entre ce qui s'est fait autrefois et ce qui se fait maintenant.
En tout cas, ça promet. Je rappelle que le chef Daniel Bartholomew Poizer sera à la baguette pour ce concert, donc Amber, qui a lieu le 31 janvier prochain. Et pour ceux qui s'intéressent, donc c'est à 19h30 à la salle Pierre-Mercure. Puis j'imagine qu'on peut trouver des billets sur le site de Obiora.
Oui.
Sinon, sur place, on peut trouver ça. Merci beaucoup, Alison Mijon. C'est bien ça?
Mijon.
Oui. Mijon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Bon. Bon, une émission un petit peu en coup de vent aujourd'hui, un peu comme le temps, parce qu'on a des brasques de vent aujourd'hui, de la poudrerie qui s'en vient. Donc, surtout en fin de journée pour le sud du Québec, le Grand Montréal, Montérégie, Lanaudière, Basse-Laurentide. Et puis, ben, ça, on s'en va vers une fin de semaine froide, une semaine qui va devenir de plus en plus froide. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'hiver, c'est ça qui arrive. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi Mathieu Tessier à la mise en onde et Hélène Denis, l'animatrice qui m'a aidé à la recherche de cette émission. Et puis, moi, ben, je suis de retour pour ceux qui m'écoutent le matin ou avant. Je suis de retour à 17h avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration, des problèmes causés par tous ces changements et ces difficultés pour les personnes immigrantes queer. On va aussi parler d'une enquête sur les chirurgies d'affirmation de sexe qui sont peut-être problématiques. Puis on va aussi parler d'un bingo pour la diversité. Tout ça, donc, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à 17h. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.